BFM Business présente Good Morning Market.
L'actualité économique et financière continue sur BFM Business. Dans un instant, l'ouverture des marchés financiers. Qu'est-ce qu'on attend pour ce matin, Étienne ?
Une ouverture stable à la Bourse de Paris. Il faut dire que la tendance est assez poussive. Ces deux derniers jours, après les moins 3% de lundi et mardi, le CAC 40 a repris 0,2%. Idem mercredi. Et puis bien sûr, aujourd'hui, tout va se jouer à 14h30 avec des chiffres d'inflation qui seront publiés aux États-Unis. Par contre, hier soir, du côté de Wall Street, on a encore des indices qui ont battu des records avec, figurez-vous, le cap des 6 500 points qui a été franchi sur l'indice S&P 500. C'est une première, plus 10% pour les S&P 500 depuis le début de l'année. Comme toujours, bien sûr, pour nous investisseurs en euros, c'est toujours assez pénalisant, au point que le S&P 500 perd 2% depuis le début de l'année en euros. Le Dow Jones, lui, de son côté, a pris 0,16%, plus 0,5% pour le Nasdaq, malgré la petite baisse de Nvidia. On se souvient qu'avant-hier, le titre était en baisse de 3% en après-bourse. Finalement, il a perdu 0,8% hier soir à la clôture.
Sur Nvidia, il y a un stress en début de séance, même en avant-marché ou en après, ça dépend comment on prend la journée. Et puis finalement, quand même, des investisseurs rassurés, il y avait cet enjeu de savoir si la concurrence chinoise allait être aussi rapide qu'Nvidia. Finalement, la séance est bien passée.
Oui, la séance est bien passée, d'autant plus que quand vous regardez Nvidia par rapport à d'autres acteurs technologiques, notamment aux États-Unis, sans parler des acteurs chinois, vous dites que Nvidia a quand même un bilan sacrément solide. Dell a publié des résultats en dessous des attentes, moins 5% hier. Marvell, qui est également un acteur qui produit des puces dédiées à l'intelligence artificielle, a perdu 12% après la publication de ses résultats. Donc quand vous dézoomez, certes, les résultats étaient conformes aux attentes de Nvidia, mais ils restent quand même stratosphériques et donc vous avez quand même le marché qui est revenu légèrement sur cette valeur en séance, puisqu'elle a perdu 3% hier en milieu d'après-midi, avant donc de perdre 0,8% hier soir à la clôture. Le retail, c'est-à-dire les investisseurs particuliers qui sont toujours très présents sur cette valeur, sans compter bien sûr les ETF. Typiquement, quand vous achetez du S&P 500, il y a 8% de Nvidia, donc forcément ça soutient la valeur.
Du côté des marchés américains, évidemment, on aura un indicateur important aujourd'hui, vous l'avez dit, mais on a quand même des indicateurs macroéconomiques qui sont quand même plutôt bons. Wall Street qui surperforme, mais pourtant des résultats d'entreprise parfois un peu mitigés.
Regardez Nike hier, qui annonce supprimer 1% de ses effectifs. Du côté de Pernod Ricard, vous avez également un groupe qui a annoncé hier un plan de réduction de 1 milliard d'euros sur les 3 prochaines années. 1 milliard d'euros, c'est quand même assez conséquent pour une entreprise qui fait un résultat opérationnel de 3 milliards par an. Donc on voit qu'en dehors d'NVIDIA, c'est pas la fête partout, loin de là. Certes, ce matin, Rémy Cointreau estime que l'impact des droits de douane sera moins important qu'anticipé, mais vous avez quand même des entreprises qui ont une faible visibilité à court terme, sans compter qu'en France, la fiscalité est pénalisante. Vous avez eu des résultats de Eiffage, moins 20%, juste à cause de la hausse de la fiscalité en France, puisque si vous retraitez une fiscalité comparable à l'an passé, les résultats de Eiffage auraient été en hausse.
Bon, un CAC 40 qui vient d'ouvrir à l'instant 7742 points, une petite baisse.
Moins 0,3%. Le seuil des 7800 points qui reste assez poussif. 7738 points à l'ouverture. Du côté des valeurs à noter, Schneider, Pernod Ricard ou encore ST Microelectronics qui perdent un peu plus d'1% à l'ouverture, quand à l'inverse, les valeurs défensives surperforment très légèrement. Un mot du 10 ans français avec toujours un 10 ans qui est sous les 3,5% ce matin. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il n'y a toujours pas de stress majeur sur la dette française. Pour l'instant, elle n'est pas attaquée. C'est quand même une très bonne nouvelle. 3,48 pour le 10 ans français quand le 10 ans italien est à 3,54. Donc, on a seulement 6 points de base quand même entre le 10 ans italien et le 10 ans français, ce qui montre quand même qu'il faut prendre le sujet au sérieux et qu'il y a quand même un problème sur la dette française. L'euro-dollar à 1,1670 quand sur le front du pétrole, nous sommes à 67$ pour le baril de Brent. L'once d'or est à 3,468$.
Vous parlerez obligations d'entreprise dans Good Morning Market ?
Alors ça, c'est le mercredi. Mais figurez-vous qu'on va quand même en parler.
Ah oui, il y a des jours.
Oui, il y a des jours. Oui, alors le lundi, on parle des ETF. Le mardi, l'ASI. Ah oui. Le mercredi, on parle d'obligations. Le jeudi, on parle des produits dérivés. Et le vendredi, c'est l'entreprise. Un patron qui vient tous les jours sur BFM Business. Enfin, le vendredi, et bien sûr dans votre émission, Laure. Mais en tout cas, le vendredi à 9h30. Et cet après-midi, ce matin.
C'est encore le matin,
c'est vrai. C'est vendredi. À 9h30, ça sera le patron d'Elysse qui sera avec nous. Vous savez qu'Elysse est un très bon baromètre de la conjoncture. Ils réalisent 30% de leur chiffre d'affaires en France. Une bande pâtissière également en Europe. Comment s'est passé l'été, sachant que le groupe est très présent dans l'hôtellerie, dans le secteur des services. Ça sera intéressant d'entendre son discours tout à l'heure à 9h30. Les autres rendez-vous de cette émission aujourd'hui, nous parlerons également des statistiques dans une dizaine de minutes avec les équipes de la BNP, puisque vous avez eu des chiffres d'inflation ce matin en France. Inflation qui est ressortie à 1%. Que faut-il en penser. Et puis enfin, le face-à-face tout à l'heure à 9h30 avec Olivier Lévy de Lévy Capital Parterre et Marc Riez, le directeur général de Vega IM.
Good Morning Market, ça commence dans un instant. Pour suivre bien évidemment l'actualité des marchés, les experts, ça sera de 10h à 11h. C'est parti.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque.
9h04, c'est Good Morning Market en direct jusqu'à 10h sur BFM Business et ensuite bien sûr les experts avec Raphaël Legendre. Au programme bien sûr de cette émission Good Morning Market, dans un instant les statistiques en France, que faut-il en penser, puis nous reviendrons bien sûr dans quelques minutes sur la tendance à la Bourse de Paris. On l'a vu à l'ouverture, un CAC 40 qui est en petite baisse, qui cède 0,2% à 7747 points et puis les valeurs qui ont été sanctionnées depuis le début de la semaine, faut-il revenir sur ces valeurs, éléments de réponse avec Louis De Fels dans une quinzaine de minutes avec donc Louis De Fels, directeur général de Gay-Lussac Gestion. Mais tout de suite, c'est l'éclaireur. Et notre éclaireur ce matin, c'est Hélène Beauchon, chef économiste adjointe de BNP Paribas. Bonjour Hélène Beauchon. Merci de répondre à l'appel de BFM Business ce matin. Analyse à chaud, hein, j'ai bien sûr conscience que ce n'est pas évident parce que ce sont des statistiques qui ont été publiées il y a une quinzaine de minutes, mais ce sont des statistiques qui sont importantes. On en parlera dans un instant, la consommation en France, mais également des chiffres d'inflation qui ont été publiés. Que nous disent ces statistiques par rapport à l'état de la conjoncture française? Bon, déjà, l'inflation se calme, on est à 1%.
Le fait est qu'on a eu une très belle série de statistiques ce matin. Ce qu'elles nous disent d'une manière générale, le message général, c'est, je dirais, hormis le signal un petit peu moins positif sur la consommation des ménages, le reste des chiffres publiés ce matin est finalement plutôt OK. Ce que j'en retiens aussi en termes de direction générale, c'est que l'économie française, voilà, la direction générale était plutôt à l'amélioration, mais on conserve aussi toujours cette image de fragilité. Donc vous voyez, il y a toujours des signaux qui restent mitigés. Si je vais un petit peu plus dans le détail de ce que l'on a eu comme chiffres ce matin, c'est vrai que ce à quoi j'étais particulièrement attentive, c'était d'abord, est-ce que la croissance, l'estimation de la croissance pour le deuxième trimestre est révisée à la baisse, à la hausse? En fait, non. Ou alors, si, même quand on regarde deux chiffres après la virgule, elle est très légèrement rehaussée. En revanche, du côté de la consommation des ménages, c'est vrai que le rebond a été, on va dire, altéré. Maintenant, au deuxième trimestre, on a une consommation des ménages qui est stagnante. Après, au mois de juillet, le chiffre, c'est vrai, est légèrement en baisse, mais il fait lui-même suite à 3 mois de hausse d'affilée. Donc, vous voyez, là encore, on a un signal positif, mais un peu mitigé. Du côté des éléments plus positifs, je retiendrai en fait la progression du pouvoir d'achat des ménages au deuxième trimestre, la légère révision en hausse des exportations au deuxième trimestre, un levier de croissance qui, dans le contexte actuel, est intéressant à suivre. Et du côté de l'investissement des entreprises, au deuxième trimestre, un chiffre légèrement moins négatif. Donc, vous voyez, une fois encore, le panorama est mitigé, mais avec une balance qui tire légèrement sur le positif. Un autre élément qui se rajoute à ce petit panorama légèrement positif, c'est le chiffre de l'emploi pour le deuxième trimestre qui a été publié aussi ce matin, une estimation plus complète et avec un chiffre légèrement positif et une tendance légèrement à l'amélioration. Voilà, donc vous voyez le bilan, finalement, voilà. Il y a de quoi voir le verre à moitié plein, je dirais.
Voir le verre à moitié plein, d'autant plus que si la consommation elle cale en France, c'était également le cas en Allemagne. Hein. Je rappelle la consommation en France qui est donc en repli de 0,3% au mois de juillet par rapport au mois de juin. Ça montre quoi quand même cette consommation qui cale? Parce que normalement, c'est l'été, vous avez quand même des dépenses dans les services qui doivent être au rendez-vous.
Ben, disons que sur le mois de juillet, là pour le moment on n'a que un mois sur le troisième trimestre. Le fait est que ce sujet de la consommation des ménages est une problématique assez complexe. On s'attendrait à ce qu'elle soit plus dynamique compte tenu de la baisse de l'inflation. Vous avez cité le chiffre, l'inflation en France reste très basse et elle décélère encore. On a ce redressement du pouvoir d'achat des ménages, mais probablement que par ailleurs, il y a un comportement d'épargne de précaution, il y a certaines inquiétudes, il y a le choc sur le niveau des prix en fait qui reste encore assez présent, même si l'inflation, donc le taux de croissance des prix, lui, il a très fortement décéléré, mais le choc sur le niveau des prix, il reste présent à l'esprit des ménages français. un contexte un peu d'incertitude générale. Alors d'incertitude politique à nouveau, mais ça c'est pour le futur. Et le fait est que les chiffres du taux d'épargne des ménages au deuxième trimestre montrent qu'il a encore augmenté. Donc malgré les gains sur le pouvoir d'achat, voilà, on a des ménages français qui restent relativement peu optimistes et peu dépensiers.
Avec notamment un moral des ménages qui est sur des plus bas de 2023. C'était l'INSEE qui avait publié ce chiffre en début de semaine. À noter également le taux des marges des entreprises qui est en repli au deuxième trimestre à 30% contre un peu plus de 31% au premier trimestre. Un mot quand même de la BCE. Contexte qui est compliqué pour la BCE puisqu'on le voit, certes, l'inflation est sous les 1% en France, 1% même. Mais dans le même temps, la croissance n'est pas au rendez-vous. Comment vous regardez cette situation pour la BCE ?
Oui, alors c'est intéressant la manière dont vous le présentez, parce que nous, on n'utilise pas du tout ce terme de compliqué. Au contraire, ce qui retient notre attention, ce qu'on trouve de notable du côté de la BCE, quand on compare à la Banque Centrale Américaine en plus, c'est qu'elle n'est pas du tout confrontée au même arbitrage difficile entre croissance et inflation. Vous avez raison, la croissance en zone euro et en France en particulier reste faiblarde. On a des risques à court terme qui sont plutôt orientés à la baisse encore. Ce manque de dynamisme a été illustré encore il y a peu de jours par les enquêtes de confiance. On a eu des PMI qui ont été plutôt bons, mais des enquêtes de la Commission européenne moins bonnes. Mais pour nous, il y a des risques haussiers à partir de 2026 à la faveur du plan d'investissement en Allemagne et des efforts d'accroissement des dépenses militaires. Donc, ok, du côté de la croissance, on a l'impression que la situation est moins positive quand on se compare aux États-Unis, mais du côté de l'inflation, il n'y a absolument pas de comparaison défavorable possible. L'inflation en zone euro est sous contrôle, à la cible, devrait le rester. Il y a même un risque d'undershooting, même si les minutes de la BCE ont montré qu'il y avait un débat. Il y a toujours un débat entre ceux qui préfèrent rester prudents ou vigilants, etc. Mais quand on regarde les conditions auxquelles la Banque Centrale Européenne est confrontée entre croissance et inflation, elle a eu les mains beaucoup plus libres que la Banque Centrale Américaine pour baisser ses taux. Et désormais, il semblerait qu'elle passe en mode statu quo, parce que finalement, elle considère que du côté de la croissance, les choses sont en train de se stabiliser et elle pourrait s'autoriser à ne plus baisser ses taux d'intérêt. Tandis que la Banque Centrale Américaine, on l'a bien vu, le débat fait rage sur est-ce qu'elle va reprendre ses baisses de taux à partir de septembre. Mais c'est du côté de la Fed que la situation est compliquée.
Avec deux statistiques à suivre, notamment aux États-Unis, en un mot, parce que le temps passe très vite, Hélène Beauchon, l'inflation cet après-midi et puis surtout l'emploi dans une semaine.
C'est les deux critères, c'est les deux composantes du mandat de la Fed. On sait que les risques sont à la hausse sur l'inflation. Elle est déjà élevée, elle est déjà en train de remonter, pas très vite, mais elle remonte. Et du côté de l'emploi, on a eu des signaux un petit peu plus négatifs, même si dans l'ensemble, le panorama économique américain, quand on regarde les statistiques dont on dispose aujourd'hui, ces statistiques ne plaident pas pour une baisse de taux. Donc si la Fed baisse les taux, ça sera dans une approche préventive pour essayer de détendre un petit peu sa politique monétaire qui est légèrement restrictive. Et en fait, ça dépendra crucialement effectivement des chiffres de l'emploi qui vont être publiés la semaine prochaine. C'est là-dessus que toute l'attention va se porter. Et c'est là-dessus que la Fed maintenant porte plus son attention, un peu plus que sur l'inflation. Donc il y a un changement de focale.
Et ce contexte monétaire, nous en reparlerons dans une demi-heure avec Olivier Lévy de Lévy Capital Parterre et Marc Ries, directeur général de Vega IM. Comment faut-il arbitrer son portefeuille par rapport à ces incertitudes monétaires ? Réponse donc dans une demi-heure. Merci beaucoup Hélène Beauchon pour ce tour complet sur la macroéconomie, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes chef économiste adjointe de BNP Paribas. 9h13, tout de suite, on se plonge sur la séance du jour. Avec Charles Janust, analyste indépendant et gérant de Supernova. Merci Charles Janust d'être en direct avec nous sur BFM Business. On a débuté cette émission, le CAC 40 était en très léger repli de 0,3%. Désormais, il est stable, 7 762 points.
Oui, bonjour Étienne, ravi de vous retrouver. En effet, le CAC 40 avait ouvert en légère baisse. Maintenant, il commence à revenir en territoire positif. En tout cas, il lutte pour. Plusieurs éléments techniques à surveiller aujourd'hui pour ce CAC 40. Tout d'abord, il faut rappeler que le CAC 40 évolue dans un large trading range depuis le mois de mai entre 7900 points pour borne haute et 7500 points pour borne basse. Ce qu'il faut surveiller, en fait, dans les prochaines heures et les prochaines séances, c'est le comportement du CAC 40 au contact de la moyenne mobile 200 périodes. Vous savez, c'est ce pivot le long terme très important à surveiller. Tout simplement, si le marché reste au-dessus, on est structurellement haussier. S'il est en dessous, on est structurellement baissier. Or, le marché, vous l'avez signalé, il avait ouvert avec un gap baissier très important mardi et on a ouvert pile poil au milieu de ce large trading range à 7700 points, point de passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Et depuis mardi, on tient ce niveau. Et c'est très important de continuer de le tenir parce que ça permet tout simplement d'avoir de l'optimisme pour viser le comblement de ce gap. Le termine en tout cas, hier, on a quasiment comblé le gap. On va essayer de le terminer aujourd'hui. Et ensuite de viser par la suite les 7900 points. Si au contraire, l'indice venait à clôturer en données journalières sous 7700 points, là on aurait un risque de dégradation un peu plus fort, tout simplement on pourrait glisser de 2-3% supplémentaires et revenir vers les 7500 points. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est pas le CAC 40 en lui-même, c'est à l'intérieur du CAC 40. Pourquoi ? Tout simplement, on voit tout simplement que depuis le début de la semaine, on a le compartiment bancaire, le compartiment des financières qui est très fortement sanctionné, actualité politique oblige, avec moins 7 pour BNP, moins 10 pour Société Générale ou encore moins 7,5 pour Crédit Agricole. Mais au contraire, quand on regarde le compartiment du luxe, c'est tout l'inverse. On a L'Oréal qui est en positif sur 5 jours, Hermès plus 2,5%, LVMH plus 5,8% et Kering surtout plus 7,5%. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a une rotation sectorielle à l'intérieur de l'indice et donc il y a une résilience de l'indice. Les opérateurs passent d'un secteur qui a été très, très recherché ces derniers mois, tout simplement. Et là, le marché est en train de revenir vers des dossiers qui avaient été mal aimés, à savoir le secteur du luxe.
Et ça tient encore ce matin, hein, plus 0,2% là, pour LVMH, 514 euros.
Exactement. Et je terminerai en disant sur l'indice CAC 40 qu'il faut surveiller le calendrier pour les 15 prochains jours, pour la simple et bonne raison que le 4 septembre, on a l'adjudication des bons du Trésor en France. Donc ça, c'est très important. Premier stress test. Ensuite, le 8, vous le savez, le vote de confiance du gouvernement. Et le 12, c'est le rendu de la copie de l'agence de notation Fitch qui va ou pas réattribuer la note double à moins à la France. Donc voilà, calendrier chargé pour les opérateurs pour les 15 prochains jours. Secteur du luxe bien orienté, les bancaires un peu en difficulté et un CAC 40 au milieu du guet. Voilà.
Agenda très chargé, hein, sans compter bien sûr les chiffres de l'emploi qui seront publiés vendredi prochain aux États-Unis. Merci beaucoup Charles Janus de nous avoir accompagné ce matin, analyste indépendant et donc gérant de Supernova, afin de faire un point donc sur l'indice parisien qui est en très légère baisse pour terminer la semaine, 7752 points. Vous l'avez souligné, beaucoup de valeurs ont été sanctionnées en début de semaine, notamment les valeurs qui sont domestiques. Faut-il revenir sur ces valeurs ? Question que je pose tout de suite à Louis de Fels. Louis de Fels, directeur général de Gay-Lussac Gestion, avec nous par téléphone. Merci Louis de Fels de répondre à l'appel de Good Morning Market. Je le disais en préambule, c'est vrai qu'on se souvient, et Charles Janus l'avait souligné également il y a un instant, qu'en début de semaine, les valeurs domestiques et notamment les small et mid-cap étaient en forte baisse. Alors bon, si on dézoome, faut pas oublier que c'était des valeurs qui avaient très bien performé depuis le début de l'année. Comment vous regardez cette situation ?
Je tiens. Donc oui, la situation rappelle un peu la dissolution de l'année dernière. C'est vrai que les small caps avaient bien reparti. C'est vrai qu'il y avait une douche froide. Bon, là, on n'est pas encore du tout à ces niveaux. Hein. C'est vrai que le spread entre l'OAT et le Bund, on est juste en dessous, sous les 80 bips. Donc voilà, le marché se rappelle bien. Donc évidemment, les valeurs très endettées, très locales, qui avaient plutôt bien performé, qui étaient très loin de toute la guerre commerciale et tout, avaient bien profité. Et c'est vrai que là, c'était la douche froide en début de semaine. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de valeurs. Donc, comme je disais, des belles valeurs françaises endettées, notamment dans l'immobilier, notamment dans le secteur des ESN ou même tout ce qui était Vinci et Fage, ont pas mal baissé. Donc pour nous, on va pouvoir en parler, on a pas mal d'opportunités à venir sur ces valeurs-là.
Avec notamment Eiffage, hein, qui a été fortement sanctionné en début d'année, avec des séances similaires, on se souvient, au mois de décembre, mais aussi à la dissolution, parce que c'est un groupe qui est présent dans les concessions, qui est présent dans les autoroutes, comme Vinci. Donc par rapport à cela, il y a pas mal d'incertitudes sur ce sujet. Et puis on l'a vu lors des résultats qui ont été publiés ces dernières heures, l'impact de la fiscalité française est loin d'être neutre.
Donc c'est vrai qu'EFAGE et Vinci, c'est des valeurs qu'on aime beaucoup, hein, tout ce qui est vraiment concession. Donc c'est vrai qu'après, nous on aime bien aussi Ferrovial en Espagne qui est exposé aux États-Unis, c'est vrai qu'il est très loin de toute cette problématique. Mais c'est vrai qu'EFAGE est une valeur qu'on aime beaucoup, qui est notamment présente ici en Allemagne depuis peu de temps. Et c'est vrai que lors des résultats, le nouveau patron allemand a dit qu'il avait un certain optimisme pour le nouveau plan allemand, mais il a dit qu'il fallait pas attendre avant 2027 un impact. C'est vrai que le titre a été pas mal sanctionné. Donc nous, on chez Gay-Lussac Gestion, on revient sur le titre. C'est que le titre a publié un peu en ligne moins, ça a été un peu mitigé, notamment à cause du BFR qui était un peu plus fort que prévu, donc la dette nette est ressortie un peu au-dessus des attentes des analystes. Donc voilà, selon nous, le titre a suffisamment corrigé.
Un titre ce matin qui est en légère baisse de 0,3% à 106,33€, donc pour ce titre, EFAGE. Autre publication à noter de ces dernières heures, c'est ID Logistique, qui là, par contre, fait état d'une croissance impressionnante, hein, plus 17% de croissance au premier semestre, avec notamment un groupe qui est de plus en plus présent aux États-Unis et qui tire une croissance impressionnante aux États-Unis. Désormais, la zone Amérique, c'est 18% de son chiffre d'affaires.
Alors, ID Logistique, c'est vraiment une valeur qu'on apprécie beaucoup, hein, introduit en bourse depuis 2012. C'est le monsieur Aymar à la tête de la société. C'est que c'est une société qui est en forte croissance depuis son introduction en bourse, qui est de plus en plus présente aux États-Unis. Donc, c'est vrai que le titre avait aussi été impacté par Liberation Day, puis maintenant de nouveau par les problèmes politiques en France. Donc là, le titre était passé furtivement sous les 400 euros. Donc, clairement, sous les 400 euros, c'est un grand achat pour nous. Là, le titre a un peu remonté parce qu'il a publié ses résultats semestriels hier matin, qui étaient en ligne moins, voilà, à 3,7%. Il y a une petite friction sur les marges de 10 points de base à 3,7%. Mais vous savez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la croissance, comme on l'a dit, est très forte. Donc, vous savez, c'est l'effet courbe en J. Quand vous avez des nouveaux contrats qui arrivent, bah, forcément, au début, il y a des investissements et puis la marge se fait plus tard. Donc, voilà, très présent aux États-Unis, notamment avec des gros clients comme Amazon. Donc, vraiment, c'est un titre familial qu'on apprécie tout particulièrement chez Gay-Lussac Gestion.
Et ça justifie des niveaux de valorisation assez quand même élevés. Ça se paye 35 fois les résultats attendu en 2026 quand même.
Voilà, alors c'est vrai que chez ID Logistique, ce qui est compliqué, il faut mieux regarder en EV et EBITDA, et c'est vrai que quand on retire les IFRS, vous savez que vous avez tous les coûts de l'allocation des entrepôts qui coûtent assez cher. Donc aujourd'hui, on est à 10 fois l'EBITDA contre une moyenne historique de 12 fois. Donc voilà, donc on a un objectif de cours autour de 500 euros. Donc dès que si on est sous les 400 euros, c'est une énorme opportunité d'achat selon nous.
Tiens, je profite de vous avoir pour parler d'Elise. Vous savez que dans un instant, Xavier Martiret, président du directoire d'Elise, sera avec nous sur BFM Business. Un titre qui a pas mal corrigé, hein, depuis le début de la semaine. Est-ce que pour vous, c'est justifié? C'est 30% du chiffre d'affaires, hein, qui est réalisé en France.
Donc voilà, c'est vrai que Elise fait partie de ces autres titres, parce que Elise, le business model, c'est d'être un peu endetté, hein, pour financer tous les capex de croissance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des valeurs qui étaient soit France, soit endettées, bah forcément avec l'OAT qui a monté face au Bund, bah toutes les valeurs qui étaient un peu endettées ont été sanctionnées. Donc c'est vrai qu'Elise a été entraînée avec le Dubin. Pourtant, la publication a été très bonne. On a bien vu, vous avez dû remarquer que les Américains sont de retour à Paris. Ça se passe très bien. La croissance est au rendez-vous. La gestion du cash également au rendez-vous. Donc, Elise, oui, c'est un titre qu'on apprécie particulièrement également chez Gay-Lussac Gestion. Donc, voilà, sur toute baisse excessive, c'est évidemment des très bons points d'entrée.
Enfin, pour terminer, Louis De Fels, si on prend un petit peu de recul par rapport aux séances de début de semaine, par rapport à la situation politique en France, quand vous regardez là en données hebdomadaires les baisses depuis le début de la semaine, vous avez souligné EFAGE, ID Logistique, Elise, mais aussi les ESN, hein, les entreprises de services numériques, est-ce que vous vous dites qu'il y a certains titres qui ont été injustement sanctionnés?
Un titre qu'on aime beaucoup, par exemple, c'est Wavestone, hein, vous savez, c'est conseil informatique, donc au début, donc qui est présent dans les banques et aussi maintenant de plus en plus présent en Allemagne depuis leur acquisition Qpérior. Bah, le titre a perdu, bon, un lundi ça allait, mais quasiment plus de 7% mardi, et a continué de baisser l'heure de la semaine. Donc voilà, on était quasiment à plus de 58 euros il y a encore début de mois, on est sous les 50 aujourd'hui. Donc voilà, le titre Wavestone, on aime beaucoup. Il y a même les ESN aussi, on aime beaucoup Neurone ou la société Aubay. Aubay a fait une très belle publication, notamment en France, hein, plus 5% de croissance organique en France, Aubay. Neurone aussi, c'est une société qui a une très forte visibilité sur son carnet de commandes et son chiffre d'affaires. Pareil, c'est des titres qui ont perdu 15-20% ces derniers temps, sans nouvelles spécifiques. Voilà, c'est la problématique d'être trop exposé à la France.
Mais là, vous parlez beaucoup de valeurs françaises. Est-ce que c'est pas aussi le moment de dérisquer un petit peu le portefeuille et de mettre un petit peu le cap à l'international et avoir une exposition un peu plus faible à la France? Est-ce que c'est ce que vous avez fait, vous, typiquement, dans vos portefeuilles?
Alors, chez nous, vous savez, on est spécialisé sur les micro small mid-cap, donc on a un fonds France, un fonds Europe et un fonds monde notamment, et c'est vrai que le fonds européen fait nettement mieux que notre fonds France depuis le début de l'année. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a cette prime de risque que la France a, alors que l'Europe du Sud va beaucoup mieux, l'Espagne va très bien, l'Italie va bien, on aime beaucoup la Grèce, hein, dans notre fonds Microcap Europe, on a plus de 15 ou 20% sur la Grèce, on a une trentaine de pourcents sur l'Italie, et ça, c'est des sociétés souvent familiales, très bien gérées, qui sont souvent encore à des prix corrects, et qui, elles, vivent leur vie, donc oui, voilà, mais après... Évidemment, l'Europe va beaucoup mieux aujourd'hui que la France. Néanmoins, on arrive à des niveaux de valorisation extrêmes sur certaines valeurs small cap françaises. On espère qu'après le 8 septembre, bon, on verra ce qui se passe, mais il y a un moment, la valorisation mérite d'être regardée, notamment en France, quoi.
Merci beaucoup Louis Defels de nous accompagner ce matin, directeur général de Gay-Lussac Gestion. L'allocation, on en parlera également dans une quinzaine de minutes avec Olivier Lévy, Lévy Capital Partner, et Marc Ries, directeur général de Vega IM. Très courte pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de cette émission. Et donc l'invité de ce vendredi, Xavier Martiret, président du directoire d'Elis. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
Deuxième partie du Good Morning Market est donc dans un instant l'invité de ce vendredi, Xavier Martiret, président du directoire de Elis. Et puis ensuite, bien sûr, nous parlerons d'allocation dans le face-à-face. Juste avant, je vous redonne la tendance à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui piétine dans les premières minutes de cotation. Souvenez-vous, nous étions en baisse de 0,3% l'ouverture. Le CAC 40 a tenté de se stabiliser là et il perd à nouveau 0,3% à 7741 points. À noter que Pernod Ricard est la plus forte baisse du CAC 40, moins 2,5%. Alors que souvenez-vous, hier matin, le titre était en hausse de 5% après la publication de ses résultats. Finalement, hier soir, la clôture, il a gagné 1%. Et donc là, il repère 2%. Donc, il revient sous son niveau de clôture de mercredi avant la publication de ses résultats. Thales, Dassault Systèmes et Legrand sont les trois plus fortes hausses à l'inverse. Du côté des taux, le 10 ans français est toujours sous les 3,5%. Nous sommes à 3,49 quand le 10 ans italien est à 3,55. Donc, vous avez un spread, un écart de taux entre la France et l'Italie qui est de 6 points de base, l'euro-dollar 1,1666. Du côté des nouvelles d'entreprises marquantes de cette séance, Brunello Cucinelli a publié hier soir des résultats conformes aux attentes, avec notamment une hausse de son résultat opérationnel de plus de 8%, groupe qui confirme sa volonté de faire 10% de croissance de son chiffre d'affaires cette année et l'année prochaine. Le marché apprécie ce titre. Brunello Cucinelli est en hausse de 0,8% à Milan, titre qui perd néanmoins un peu plus de 3% depuis le début de l'année. Et puis enfin, un mot de Rémy Cointreau qui perd 0,7%, et pourtant le titre était très attendu ce matin, puisque vous avez le groupe qui a revu à la baisse l'impact des droits de douane, notamment en ce qui concerne les États-Unis, après donc l'annonce de 15% de droits de douane sur les vins et les spiritueux. 9h28 sur BFM Business, tout de suite le focus du jour. Et chaque vendredi, c'est un dirigeant d'entreprise qui sera avec nous dans Good Morning Market. Et donc ce matin, Xavier Martiret, président du directoire d'Elis. Bonjour Xavier Martiret, merci d'être avec nous en direct sur BFM Business. Pour prendre un petit peu le pouls de votre activité, on rappelle que Elis est un groupe de blanchisserie qui est présent dans le secteur des services, mais pas que. Pour rappel, vous réalisez 30% de votre chiffre d'affaires en France.
Bonjour, merci de votre invitation.
Pour rappel, donc 30% de votre chiffre d'affaires en France, le reste de l'activité est notamment réalisé en Europe, mais aussi du côté de l'Amérique du Sud. Vous avez publié vos résultats semestriels, c'était il y a un mois, c'était le 30 juillet. Vous aviez à l'époque parlé d'une tendance qui était plutôt positive, notamment dans l'activité hôtelière en France, mais aussi en Europe du Sud. Si on doit prendre un petit peu le pouls là de votre activité, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, au mois de juillet-août, comment s'est passée l'activité pour Elis?
Alors, on est très satisfait de l'été. L'hôtellerie-restauration, ça représente un peu plus de 25% de notre chiffre d'affaires. C'est la partie qui est un peu cyclique dans notre portefeuille d'activité. Et on fait un très bel été, principalement sur l'hôtellerie, avec un effet JO indéniable et très positif sur Paris, où on a une activité hôtelière vraiment canon sur juillet et sur août. L'Europe du Sud a très bien performé également sur juillet et août. L'Espagne avait connu une activité très très forte sur l'été 2024 et on a à nouveau une très belle performance sur l'été 2025. Très satisfait aussi de voir un redressement de l'hôtellerie en Angleterre. Le premier semestre était un petit peu moribond, avec des taux d'occupation un peu faibles. Et là, sur juillet-août, ça s'est nettement redressé. Donc, on est vraiment très satisfait de notre niveau d'activité cet été avec l'hôtellerie.
Pour rappel, vous réalisez 30% de votre chiffre d'affaires dans le secteur de la santé, 30% dans l'industrie, 25% dans l'hospitalité et 18% dans le secteur des services. Si vous regardez ces différents blocs, comment aujourd'hui ils évoluent? Alors, vous êtes présent dans des secteurs qui sont très défensifs, typiquement les prisons, mais aussi les hôpitaux, puis des secteurs qui sont un peu plus cycliques, typiquement, eh bien, vous proposez à des industriels de leur fournir des tenues de travail pour les usines, etc. Comment ça se passe là dans l'activité plus cyclique, dans l'industrie? Parce qu'on voit quand même que le contexte est assez déprimé, notamment en Europe, de ce point de vue.
Alors, il est indéniable que le contexte est un peu compliqué. Les dernières annonces en France n'ont pas aidé. Les entreprises ont besoin de stabilité réglementaire et fiscale et ont besoin de capacité à prévoir. Donc, on voit bien que tout le monde est un peu perturbé. Néanmoins, on n'a pas vraiment connu de baisse d'activité. Peut-être uniquement sur la partie industrie automobile et puis au sens large avec les sous-traitants en Europe centrale, où on a vu une activité qui était un petit peu faible sur le premier semestre, mais ça reste assez mesuré, comme en témoigne d'ailleurs la très belle performance de l'entreprise au premier semestre. On a fait plus de 4% de croissance, on fera entre 5 et 6 sur l'année. Donc on a la chance, nous, d'habiller 4 millions de personnes en Europe, 4 millions de personnes qui portent des uniformes qui appartiennent à Elis et qui sont entretenus par Elis. Donc ça veut dire qu'on est capable d'adresser tout type d'entreprises, tous les marchés, tous les types d'industries et de services. Et donc, c'est ce qui donne à l'entreprise un caractère aussi résilient. Et donc, la petite musique un peu...
Xavier Martiret, que l'on va retrouver dans un instant, on a perdu la liaison. Vous êtes avec nous?
Ah oui, je vous entends parfaitement.
Parfaitement, oui. Donc, vous parliez notamment de l'activité dans l'industrie.
Oui, activité dans l'industrie. Donc, en résumé, je disais, globalement, ça se tient très bien. Peut-être à l'exception de l'industrie automobile au sens large en Europe centrale. Mais pour le reste, on est plutôt satisfait du niveau de performance. Les résultats du premier semestre, d'ailleurs, le éclairent ce niveau de performance. Plus de 4% de croissance pour l'entreprise. On attend entre 5 et 6 là, sur l'année. Et on a la chance d'habiller 4 millions de personnes en Europe. Et donc, on peut adresser tout type de services et d'industrie. C'est ce qui donne la force du business model de l'entreprise, avec un caractère très très résilient.
Marge d'EBITDA de plus de 34% au premier semestre. Par rapport à cela, aujourd'hui, il y a une certaine forme de ouf de soulagement pour vous. J'imagine, quand vous regardez les prix de l'énergie, c'était une forte inquiétude pour Elis à la sortie de la crise, notamment sanitaire. On se souvient qu'avec la guerre en Ukraine, également, il y avait une envolée des prix de l'énergie. Bon, là-dessus, ça se dégonfle un petit peu. Comment vous regardez ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui, pour vous, est maîtrisé?
Alors oui, le sujet, il est parfaitement maîtrisé. C'est sûr que quand on compare avec 2022, là où le prix du gaz a fait x10, donc avec une crise d'inflation des coûts très très difficile à gérer, on a parfaitement maîtrisé ce passage difficile. Depuis maintenant plus de 18 mois, on va dire que les prix de l'énergie sont revenus à un niveau stable, au-dessus des cours de 2019, mais stable. Et puis, entre-temps, on a évidemment adopté une politique de couverture qui nous permet d'avoir une grande prévisibilité sur les prix de l'énergie pour les 2-3 années à venir.
Quels sont les prochains défis d'Elis? J'imagine qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clients qui passent par la sous-traitance. Il y a également toute une chaîne de logistique à laquelle il faut répondre.
Alors effectivement, on a un business model qui est très apprécié par nos clients, qui outsourcent de plus en plus. On a, par exemple, on prenait l'exemple de l'industrie et du vêtement professionnel. Aujourd'hui, on a encore une majorité d'entreprises qui sont encore à l'achat pour leurs vêtements et qui ne s'occupent pas de l'entretien de ces vêtements. Et le contexte d'un besoin d'hygiène, d'un besoin de traçabilité, des vêtements qui sont de plus en plus avec des normes de protection et donc qui nécessitent de pouvoir suivre la qualité du lavage et de l'entretien, tout ça pousse les entreprises à l'externalisation et c'est un des principaux moteurs de la croissance de l'entreprise ce phénomène d'outsourcing. Et alors, on parle évidemment de ce phénomène en Europe, mais vous imaginez qu'en Amérique du Sud, c'est encore plus poussé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait décidé d'investir en Amérique du Sud en 2014. On est maintenant ultra leader au Brésil, au Mexique, au Chili et en Colombie, avec plus d'un demi-milliard de chiffre d'affaires là-bas. Et on a des croissances à deux chiffres parce que le niveau d'outsourcing est très, très, très limité. Et en fait, on est en train d'ouvrir et de créer le marché.
Xavier Martiré, président directoire d'Elis, une question quand même sur les acquisitions, puisque votre entreprise a connu une forte croissance ces dernières années grâce aux acquisitions, hein, c'est l'un des moteurs de votre croissance. Il y a un an, il y avait pas mal d'inquiétudes concernant votre développement aux États-Unis, puisque vous étiez en pourparlers avec des acteurs américains, des acteurs qui faisaient votre taille. Ça avait inquiété le marché. Quelle est aujourd'hui votre stratégie en termes de croissance externe, notamment aux États-Unis, puisque c'est un marché qui est très porteur, hein, bien sûr?
Alors effectivement, le marché américain, il est très intéressant, mais comme on l'a indiqué au marché lors de notre Investor Day il y a 2-3 mois, aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité sérieuse pour Elis. Si on revient sur ce qui s'est passé l'an dernier, en fait, c'est plutôt de la spéculation parce qu'il y a eu des fuites sur un dossier où on était vraiment en phase préalable d'études et donc on est, nous, extrêmement sérieux dans notre politique de M&A, extrêmement sélectif. Et donc, on était très, 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 très loin d'arriver à un potentiel deal. Et les fuites ont inquiété le marché, évidemment. Mais on a décidé, quand on a vu les conditions d'un potentiel deal qui n'était pas satisfaisant pour nous et pour nos actionnaires, on a décidé d'arrêter toutes les discussions. Et donc, comme je l'ai indiqué il y a 2-3 mois, les États-Unis pour Elis, c'est pas pour demain, c'est pas l'ordre du jour. On a d'autres territoires où on peut se développer avec beaucoup de petites acquisitions, comme on l'a réalisé d'ailleurs depuis le début de l'année. On a déjà réalisé 4 à 5 deals d'une taille de l'ordre d'une quinzaine ou d'une vingtaine de millions d'euros. On a annoncé très récemment là une nouvelle acquisition en Irlande. On est déjà leader là-bas et on va pouvoir se renforcer. Et puis on avait fait aussi 2 belles acquisitions en Espagne, une belle acquisition en Allemagne et aussi un très joli deal en Suisse. Et puis il y a d'autres opportunités dans les tuyaux. Donc comme vous le voyez, la priorité c'est quand même plutôt les pays dans lesquels nous sommes déjà opérateurs pour renforcer notre positionnement dans nos 30 pays actuellement en portefeuille.
Merci beaucoup, Xavier Martiré, de nous avoir accompagné ce matin, président du directoire d'Elis dans Good Morning Market. 9h37, vous connaissez le rendez-vous, c'est le face-à-face. Face à face ce matin avec Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partner. Bonjour Olivier.
Bonjour Étienne.
Merci de débuter la saison avec nous ce matin sur BFM Business. Et Marc Ries, directeur général de Vega IM. Bonjour Marc.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir tous les deux sur ce plateau. Beaucoup de sujets, bien sûr. On va bien sûr aborder le sujet des banques centrales dans quelques minutes. Mais juste avant quand même, pour les auditeurs, téléspectateurs qui se reconnectent un petit peu là, qui étaient en vacances, étaient... Bon, quand même sur des niveaux records, hein, encore ce matin du côté de Wall Street. Ouais. Quand vous regardez la tendance du côté de Paris, bon, forcément, le contexte politique a un petit peu plombé la semaine. Hein, on perd un peu plus de 3% sur l'ensemble de la semaine. Comment vous regardez ce paysage des marchés actions, Olivier Lévy?
Bah, effectivement, je pense que vous avez raison de rappeler que tout est un peu bien valorisé. N'est pas forcément cher, mais effectivement, le marché action est à son plus haut. Je parle même pas du Nasdaq, hein, qui flirte à nouveau avec ses records. Les marchés obligataires tiennent très bien, l'or est au plus haut, le pétrole revient, effectivement. Donc, on a des stress dans le marché qui sont pas bien pricés, selon nous. Et on a une séquence qu'on attendait, évidemment, depuis très longtemps, où on nous dit, effectivement, bah, il y a un stress dans le marché, mais le marché ne le price pas. Parce que le marché, il attend les banques centrales, tout simplement. Mais, c'est une mauvaise tactique, selon moi, selon nous, chez Lévy Capital, parce que on se doit d'être résilient dans la longue durée, sans prendre en compte les banques centrales. On peut pas faire ce jeu-là en pensant que les banques centrales seront toujours là pour sauver le système. Donc, on a aujourd'hui, on a continué à être dans un bouclier très offensif dans nos allocations, c'est-à-dire opportuniste dans les dislocations de marché que nous offrent ces séquences où il y a possible dissolution, possible remaniement, possible troïka qui reviendrait pour nous imposer, puisque on nous le dit clairement en France. Les politiciens du moment ne feront pas le job. Donc il n'y a pas de courage en interne pour faire le job. Donc ça viendra possiblement de la Banque Centrale, possiblement du FMI ou pas. Donc, dans cette considération, on se doit d'être toujours international, puisqu'il y a des sociétés françaises qui sont exposées aux territoires internationaux et donc moins exposées au marché domestique. On se doit d'être dans les banques, mais pas toutes, parce que là aussi, les banques sont très exposées aux souverains français. On se doit d'être dans des foncières qui sont des grandes aristocrates, qui donnent des dividendes, mais là aussi, pas celles qui sont trop endettées, parce qu'elles vont se faire, là aussi, laminer sur les taux. Promoteurs immobiliers, j'en parle même pas, parce qu'il n'y a pas de bouclier. Il n'y a aucun plan de relance en France, il n'y a pas de Grenelle de l'immobilier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend que les prix baissent pour permettre non plus à ceux qui ne sont pas boomers, possiblement un jour, d'accéder à la pleine propriété. Est-ce que c'est ça qu'on attend? Une baisse des valorisations, des sous-jacents. Donc, dans ce contexte, on reste très résilient, toujours très diversifié sur les devises, évidemment, puisque la chance et la faiblesse de la France aujourd'hui, c'est d'être en Europe. Donc, je m'explique, elle n'a pas sa monnaie, comme les Anglais ou les Américains, pour possiblement dévaluer. C'est-à-dire qu'elle est sous le parapluie européen, et possiblement sous le diktat européen demain matin.
Merci l'euro, ça c'est très clair pour la situation de la France. Quand je vous écoute, j'ai envie de vous dire, c'est simple, on achète du Nvidia, on en reparlera dans un instant, faut-il acheter du Nvidia après un plus 90% depuis le mois d'avril? Mais restons sur ces sujets, Marc Riez.
Oui. Non, nous, effectivement, on peut que faire ce constat que la France, depuis les élections européennes de 2024... est un peu le mauvais élève des marchés boursiers, voilà. Alors, le risque politique joue, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que les indices français étaient quand même très dépendants du secteur du luxe, que c'est un secteur qui a beaucoup souffert pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la politique française, en fait. Et que donc...
Il retrouve des couleurs, là.
Voilà, là, il retrouve des couleurs.
LVMH a pris 10% en 3 semaines, on est sur des points du mois de
mai. J'ai l'impression quand même que le CAC va plus maintenant évoluer au gré des marchés mondiaux, etc., vu le retard qu'il a déjà pris cette année et l'année dernière, que véritablement au gré des dissolutions, des gouvernements, etc. C'est vrai, sur les taux, il y a une prime de risque pour les émissions d'État français. Le spread, on l'a vu tourner un peu au-dessus de 60, il est un peu au-dessous de 80 par rapport à l'Allemagne. Donc,
L'Italie, on a 7 points.
L'Italie, voilà, va bientôt emprunter moins cher que nous. C'est déjà le cas du Portugal,
sur le 5 ans, c'est déjà
de la Grèce, de l'Italie sur 5 ans. Bref, c'est vrai que ça a un gros coup sur la partie dette. Après, sur les actions françaises, je pense que la prime de risque, elle est déjà là.
Elle est déjà là ?
Je pense. Donc je pense que quoi qu'il se passe dans les semaines qui viennent, il n'y a plus de risque majeur pour les actions françaises, en particulier par rapport aux autres, et qu'elles vont plutôt suivre l'évolution des marchés mondiaux. Et puis, alors, vous parliez tout à l'heure des banques centrales, mais même si, effectivement, on ne peut pas tout attendre d'elles, c'est vrai que nous, en tant que gérants, malheureusement, c'est quand même un peu notre thermomètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent bien que la Banque Centrale Américaine, qui est quand même le grand directeur des marchés au sens mondial, a une forte pression pour baisser ses taux. On attend tout à l'heure à 14h30 ce fameux indice PCE, qui est l'indice qu'elle regarde le plus, pour savoir si l'inflation redémarre, ce qui pourrait peut-être l'empêcher de baisser ses taux. Mais il y a quand même de fortes probabilités pour que le 17 septembre, elle baisse au moins d'un quart de point ses taux d'intérêt.
Avec bien sûr Donald Trump qui n'arrête pas de...
Voilà, de mettre la pression. Et c'est ça qui explique en fait que le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones soient au plus haut historique. C'est que c'est très dur en tant que gérant d'être absent des marchés quelques jours ou quelques semaines avant que la Banque Centrale Américaine risque fortement de baisser ses taux. Parce qu'on pourrait vous reprocher quand même de ne pas avoir profité finalement de cette manne. Donc je pense que tant qu'il y a cette perspective, et sauf si vraiment le chiffre d'inflation de cet après-midi est très mauvais, c'est difficile de sortir vraiment des marchés d'actions et de ne pas y être.
Juste pour fermer le sujet France, est-ce que par rapport à ce qui s'est passé en début de semaine, vous avez dans vos fonds chez Vega IM mais un peu moins d'allocations sur les valeurs françaises ou sur des obligations françaises?
Oui, c'est un marché qu'on avait déjà un peu sous-pondéré l'année dernière, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Là, effectivement...
Ça enfonce le clou, là.
C'est ça.
Donc là, l'exposition France...
Voilà, c'est un nouveau, puisqu'effectivement, on avait un CAC 40 qui flirtait presque avec les 8000 points. Les 20, 22 août, on était vers 7970, on était tout près des 8000. Et là, à nouveau, avec cette annonce de François Bayrou, on a cette perte de 3% du CAC. Bon, j'ai l'impression que ces 3% rémunèrent le risque d'une dissolution.
Néanmoins,
je pense que si on n'a pas vendu
ça avant, plane au-dessus. Enfin, il y a quand même une incertitude qui est présente et rien
plane,
ne dit que
ça plane. Ça ouais. peut être, il peut y avoir une dissolution, il peut ne pas y en avoir. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que il y a quand même en France une administration qui gère plus ou moins le budget. Et même si on peut être inquiet sur l'évolution des déficits, de la dette française et tout ça, je ne pense pas qu'on soit à court terme à l'aube d'une attaque massive des hedge funds sur la dette française.
9h45, on fait un point sur la tendance, on poursuit nos échanges dans un instant. CAC 40 qui cède 0,46%, 7727 points. Thales, Dassault Systèmes et Unibail sont les trois plus fortes hausses, alors que à l'inverse, Pernod Ricard perd un peu plus de 4%. Le titre était en hausse de plus de 5% hier matin après la publication de ses résultats. Et puis Alexandre Ricard et puis Hélène de Tissot n'ont visiblement pas réussi à rassurer hier après-midi lors de la conf call et le titre perd du terrain. Déjà hier soir à la clôture, la hausse était bien épuisée. 96,60€ pour ce titre Pernod Ricard. Rémi Cointreau ce matin a réduit l'impact des droits de douane, mais ça ne profite pas à la valeur, moins 1,6% à 53,75€. Téléperformance, Kering et Crédit Agricole perdent également un peu plus d'1%. Le tout donc dans un CAC 40 qui respire, moins 0,45%, 7727 points. Faut-il acheter du Nvidia, Olivier Lévy? Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, comment on fait quand on est acteur de marché pour ne pas être présent sur cette valeur? Ça fait 8% du S&P 500. Donc, tous les ETF en sont blindés. Tous les fonds tech en sont blindés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun fonds tech ne peut pas avoir du Nvidia en portefeuille. Comment vous, aujourd'hui, vous analysez cette situation et comment vous parlez d'Nvidia avec vos clients?
Alors, on n'en parle pas. On parle de la technologie au sens large parce qu'Nvidia, c'est un risque idiosyncratique. Je ne connais pas. C'est très compliqué. Compte tenu de la valorisation, je ne suis pas à l'aise d'avoir autant de pourcentage que ce que reflètent effectivement les principaux ETF de la planète. Et je vous le rappelle, quand tout est congestionné et que c'est un effet de mode, je suis pas fan. Donc très clairement, nous en avons, mais on a déjà depuis longtemps pris des bénéfices. Donc on est indexé parce qu'on nous en voudrait, comme l'a dit tout à l'heure Marc, de ne pas en avoir. C'est très bien. Par contre, je suis désolé de vous dire, il y a des sociétés qui ont des valorisations à la cave et pour lesquelles il suffit de se baisser pour ramasser aussi des opportunités qui, demain, profiteront de cet écosystème IA, qui génère déjà des très gros cash flows, qui font également des rachats d'actions. Donc, je crois qu'il faut, là aussi, pas succomber trop rapidement aux effets de mode. Il faut être dans la tendance structurelle, oui, et tout le marché ne peut pas regarder que le compte de résultats et le bilan de cette société en particulier. Donc, à mesure où tout va bien, formidable. Le jour où il y aura une petite déception, ce petit grain de poussière emmènera Alphabet, Amazon, Meta et autres. Et qu'est-ce qu'on fera? Ah, mais on vous l'aviez bien dit. Donc, l'exposition à cette thématique est évidente dans n'importe quelle allocation, mais elle doit être, selon moi, on doit aussi savoir prendre ses bénéfices. Donc ça aussi, en bonne gestion, on a réduit la voilure de près de 40% sur ces positions-là depuis maintenant 3 mois. Et on est très confortable à l'idée d'avoir rebasculé sur d'autres thématiques.
Marc Riez, ça pèse quoi aujourd'hui Nvidia dans vos portefeuilles?
On n'est pas à nous vous pondérer là-dessus, je veux dire pourquoi. C'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure,
le S&P
sur la hausse du cours de Nvidia depuis avril. Vous dites que ça a monté de 90%, c'est vrai, c'est très important, etc. Ce qu'il faut quand même se souvenir, c'est qu'il y a 2 ans, au deuxième trimestre 2023, donc c'est pas si vieux que ça, le chiffre d'affaires de Nvidia, c'était à peu près 13 milliards de dollars. Aujourd'hui, on se rapproche des 50 milliards de dollars.
Marge nette au-delà des 50%.
Avec une marge nette au-delà. Donc si vous voulez, je veux bien qu'on puisse se dire c'est une valeur parmi d'autres, mais elle a quand même bénéficié d'un contexte que très peu d'entreprises au monde ont connu. Une entreprise de cette taille qui fait à peu près 3,5 fois de chiffre d'affaires de hausse en l'espace de 2 ans, parce que il y a une demande sur ces produits et avec les marges que vous décrivez, il y en a pas. Quand on regarde la cote, on en a quand même pas des milliers non
surtout
plus.
Surtout qu'il y a pas de concurrent pour l'heure. On voilà. le voit encore avec les publications hier soir de Marvel, de Intel. Voilà. Derrière, ça suit pas donc, pour les autres.
C'est vrai de dire. Il faut pas tout miser sur le même cheval. Il faut, quand ça monte comme ça, c'est pas une mauvaise stratégie de prendre des profits au fil de l'eau, etc. Parce que, effectivement, ça a bien gagné. Et qu'un jour, certainement, il y aura, comme dans toutes les valeurs qu'on a connues depuis des années, qu'on est tous les deux sur les marchés, il y aura une correction. Mais si vous voulez, c'est très difficile de ne pas être dans ce train-là, parce que ça n'est pas une situation qui est fréquente. Et donc, pour nous, gérants, quand on voit un business qui se développe à cette vitesse, avec cette profitabilité, forcément, on a envie de faire partie de la fête.
Surtout que vous avez des fonds de croissance. Vega, c'est historiquement
surtout
des fonds de croissance.
Surtout qu'on est historiquement une, valeur de, une société de croissance. Donc, si cette valeur-là, on se disait, bah non, celle-là...
50% de croissance,
elle, elle croit trop. Bon... voilà, donc la valo...
Mais comment vous diversifiez du coup les portefeuilles? Parce qu'on ne peut pas mettre que du Nvidia, forcément.
Non,
donc
bien sûr. Alors, nous, on a essayé de ne pas être trop présents sur les valeurs de la tech qui étaient exposées à la Chine. Et là, je pense à des Apple, à des Tesla, qui, effectivement, sont face à une vraie concurrence des Chinois ou à des mesures chinoises qui limitent leur capacité à se développer sur leur territoire. D'ailleurs, on a vu que Nvidia ne parle même pas de la Chine. Vous avez vu dans leur chiffre d'affaires, ils font zéro de projection sur la puce X20 qui est destinée au marché chinois. Donc là, au moins, on n'aura pas de déception de ce côté-là. Ça peut pas faire moins que zéro quand même. Mais
sachant que maintenant, ils doivent donner 15% de leur chiffre d'affaires réalisé en Chine.
C'est ça.
Aux États-Unis.
C'est ça. Ça, c'est bon.
Donc, du coup, vous dérisquez Tesla, Apple, les valeurs dépendantes
voilà,
de la Chine.
Voilà, les valeurs qui sont exposées à la Chine. Et on se concentre sur les valeurs technologiques qui... sont un peu plus immunes dans cette guerre commerciale que mène Trump. Alors moi, je ne veux pas faire de politique sur Trump. Bon, effectivement, vu d'Europe, il est vraiment très bizarre comme personnage. Il a ses raisons. Bon, il a une méthode à lui qui est plus que contestable.
Mais il y a des opportunités néanmoins.
Mais voilà, moi je me dis quand même qu'il a pris conscience là, et on le voit dans son discours récent, de l'importance de la tech pour lui. Parce que vous savez que pendant très longtemps, il défendait l'industrie pétrolière texane, l'automobile, c'est un combat un peu perdu déjà. Il défendait comme des secteurs très traditionnels de l'économie américaine qui sont en perte de vitesse.
Son bastion, son
voilà,
électorat.
Voilà, son électorat. Pour des raisons, comme vous le dites, hein, démagogiques. Mmh. Par contre, là, depuis quelque temps, son discours s'infléchit sur voilà, il faut que les entreprises technologiques américaines soient respectées. Et il faut qu'on écoute ce qu'il dit, parce que très souvent, on a l'impression de se dire ce gars-là est un fou dangereux, il raconte n'importe quoi, etc. Et donc, nous, Français, on se dit c'est des balivernes. Mais non. En fait, ce qu'il dit, il faut quand même qu'on l'écoute, même si c'est des balivernes, parce que ça peut avoir un impact sur nous, sur les marchés. Et donc là, le fait qu'il se centre sur la tech, pour moi, on peut pas le négliger, si vous voulez, dans nos allocations.
Olivier Lévy.
Oui, non seulement il faut le lire dans le texte, évidemment, et il faut voir ce qu'il fait, évidemment, il le fait.
Et
il le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
C'est ça qui est terrible.
Au-delà... Non, c'est pas forcément terrible. C'est-à-dire que lui, il prend des décisions très courageuses, sans prendre parti, plutôt que d'autres. Voilà, regardez ce qu'il fait sur Intel. Il vient de prendre une participation dans Intel.
10%.
Ok, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sauver les puces américaines, souveraineté américaine. Il va possiblement prendre des participations dans la défense américaine. On parle de Lockheed Martin, on parle d'un certain... pour défendre les contrats et pour défendre la technologie américaine.
Mais c'est la façon de le faire. C'est-à-dire qu'il se dit, tiens, je vais prendre 10% d'Intel et l'entreprise n'a pas son mot à dire.
Mais c'est une privatisation déguisée, puisqu'il n'a pas pris, c'est sous couvert de contrats donnés à Intel. Donc là aussi, c'est pour aider Intel à se développer à travers le monde. Donc c'est win-win, selon nous. Et oui, vous avez raison, c'est un peu, vu sous le prisme français, un peu radical, mais les Américains sont comme ça. C'est-à-dire que pendant le Covid, pendant Lehman, eux, ils prennent des participations dans les banques de demain et font de l'argent en se rétractant après-demain. Ce que la France n'a pas su faire en sauvant ses banques, en sauvant son industrie automobile, elle aurait pu, à un moment donné, prendre des participations. Elle ne les a pas prises à travers ses fonds stratégiques d'investissement ou BPI. Et donc, on a deux modèles qui se chevauchent. À un moment donné où la Chine se rétracte sur elle-même, à un moment donné où les États-Unis se rétractent sur elle-même, quid de l'Europe? C'est la grande inconnue. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, en Europe? Est-ce qu'on va se laisser manger ou pas? Donc, il est effectivement très proactif, mais je crois qu'il a une politique générale très claire pour les États-Unis d'Amérique, et sa stratégie, il la déroule.
Mais ça vous fait pas peur de voir l'État qui arrive comme ça dans une société Parce qu'en France, alors c'est la situation est différente, mais j'entends plein d'acteurs de marché dire « Ah non, moi j'investis pas dans une société dans laquelle l'État public est présent ». Et en fait, là, maintenant il y a de la spéculation, Boeing monte parce que peut-être le gouvernement américain va rentrer au capital de Boeing.
Bah, écoutez, je peux pas comparer l'État français à l'État américain, puisque depuis le Doge et puis leur manière de rationaliser et d'aller vers des gains de productivité à la hache, nous on sait pas faire en France. Donc on a cette inertie effectivement où on est plutôt dans la prise de golden shares dans Total ou dans des secteurs dits hautement stratégiques, qui est évident, hein, la santé, l'armée et autres, mais on va pas plus loin. Donc c'est à la fois une protection et vu d'un investisseur français, effectivement, bah il va pas se passer grand chose si en plus l'État est à l'intérieur. Mais peut-être que l'État va faire évoluer, je l'espère, en France son modèle.
Pour conclure, on a entendu votre discours, Olivier Lévy. Prudent, allocation, diversifié, obligation, prudent sur
oui,
la
tête. Obligation d'entreprise, notamment, versus obligation souveraine. Des actions, du picking, évidemment. On ramasse des small caps qui sont pas chers à l'international. On fait attention aux mid-caps françaises. On est toujours très bien positionné sur les devises que sont le franc suisse et le dollar. On est toujours très bien positionné sur l'or qu'on conserve. Et on fait très attention tactiquement à l'écart de taux qui pourrait évoluer. Et là, si on atteint les 100 bips d'écart entre la France et l'Allemagne, là, pour nous, c'est le voyant rouge. Les marchés financiers pourraient se faire attaquer. Et vous parliez des hedge funds. Pour le moment, c'est les grands absents de la partie. Ils vont venir nous attaquer, comme ils vont attaquer l'Angleterre, qui est dans une situation qui n'est pas plus honorable que la française aujourd'hui.
Bon, gardons le sourire. Marc Ries, le mot de la fin ?
Oui, voilà, nous, on pense que voilà, il faut pas non plus trop s'inquiéter sur les actions françaises. On pense qu'elles ont vraiment déjà subi une décote assez marquée suite aux différents épisodes précédents. Et on pense que c'est dangereux d'être trop absent des marchés avant une très probable baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Donc je pense que s'il y a des profits à prendre, ce sera peut-être plutôt après cette baisse des taux qu'avant. Il faut le faire de manière massive.
Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés ce matin. Donc, Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners, et Marc Ries, directeur général de Vega IM. 9h56, dans une poignée de secondes, vous retrouvez Raphaël Legendre et ses experts.
Oui, Étienne, absolument, pour une nouvelle émission des experts, 10h, 11h, tous les jours sur BFM Business. On va parler du Conseil des ministres franco-allemand qui se tient aujourd'hui à Toulon, un Conseil des ministres très important pour relancer le moteur économique de l'Europe, le moteur franco-allemand, avec beaucoup de sujets sur la table, défense, énergie, commerce avec la Chine, avec une note très intéressante faite par des économistes français et allemands. On avait Jean Pisani Ferry ce matin sur le plateau de BFM Business. On va parler de tout ça avec les experts, et puis de ce deal de François Bayrou aux entreprises. Je vous rabote un peu vos aides contre des baisses d'impôts et de la simplification. Est-ce que ça fonctionne ? On réfléchit à tout ça avec les experts. Dès 10h, à tout de suite.
10h, 11h, les experts, et je vous retrouve lundi pour Good Morning Market. La tendance à la Bourse de Paris, une baisse en ce vendredi, moins 0,58%, 7717 points. Séance, bien sûr, que vous pouvez suivre en direct sur BFM, BFM Bourse, 15h30, 18h, et bien sûr, en replay. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.